Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Xhaka all'ingresso in area ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Totti! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci prova con il testo,
si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 12e épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et Pépé. Aujourd'hui, on enregistre un épisode placé sous le signe d'un élan positif au cœur d'une actualité très difficile. Avant de vous expliquer tout cela, il est temps de saluer Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Johan Crochet.
Alors je le disais Guillaume, un épisode un peu spécial aujourd'hui en ces temps de coronavirus et de confinement, d'actualité très difficile, je le disais en introduction, oui. Pour se libérer un peu l'esprit de l'accumulation de mauvaises nouvelles qui nous arrivent un peu chaque jour, on a décidé de prendre un peu le contre-pied et d'évoquer des choses positives avec la fameuse positive attitude. En attendant une éventuelle reprise donc de la Serie A, nous allons vous présenter, chers auditeurs et auditrices, une liste non exhaustive de toutes les choses positives depuis le début de saison en Italie. Alors il y aura des clubs, il y aura des joueurs, des entraîneurs, des matchs, des faits hors terrain, bref, de quoi sourire à nouveau pendant quelques minutes ou quelques heures. Alors Guillaume, on a une première... version qui sort aujourd'hui, un premier volume entre guillemets, et puis on aura un deuxième volume avec à chaque fois 10 items qui sortira d'ici une quinzaine de jours pour vous permettre d'avoir un petit peu de contenu de manière régulière vu que nous sommes privés de football pour quelques semaines encore. On commence Guillaume cet épisode par sans doute l'équipe la plus enthousiasmante depuis 18 mois maintenant en Italie, c'est l'Atalanta et c'est évidemment, alors j'ai fait un focus sur le parcours de l'Atalanta en Ligue des Champions parce que c'était, alors en championnat on est un petit peu plus habitué, mais en Ligue des Champions c'était une première pour le club déjà, Donc c'est vraiment quelque chose de d'inhabituel et on se demandait un peu comment le club allait absorber à la fois cette nouveauté et puis cette double compétition qu'ils allaient devoir gérer entre la Ligue des Champions et la Serie A. Et ben en fait, ils font quasiment aussi bien en Serie A et ils ont réussi à faire un joli petit parcours pour le moment en Ligue des Champions et pourtant, ça avait très très mal commencé. Puisque c'était au mois de septembre, l'aventure en Ligue des Champions avait débuté par une rouste à Zagreb, 4-0. Alors moi, c'est le seul match de l'Atalanta que j'ai pas vu en Ligue des Champions cette saison. Mais ça m'avait énormément surpris, évidemment, quand j'avais vu le résultat. Puis ensuite, on avait une défaite, contre le Shakhtar Donetsk à domicile. C'était donc à San Siro, puisque les matchs de l'Atalanta à domicile cette saison se jouent à Milan. Qui était assez, j'ai pas envie de dire immérité, mais... assez compliqué parce que le match avait été plutôt bon, il s'était fait piquer en contre en voulant attaquer à coûte que coûte dans les arrêts de jeu, enfin toute la fin de match c'était un peu une attaque défense et puis s'était fait piquer en contre par les Ukrainiens. Et puis le troisième match c'était une lourde défaite à City 5-1 qui ne disait pas tout non plus de la première mi-temps des joueurs de l'Atalanta. Et évidemment après trois défaites et deux roustes, Guillaume, on s'était tous dit bon cette première expérience en Ligue des Champions, voilà, va être très compliquée. Et puis, le miracle lors des matchs retour. Avec, on commence, un match nul contre Manchester City, 1-1. Une victoire contre Zagreb, 2-0. Et une victoire à Donetsk, 3-0. Ce qui est assez marrant, c'est que finalement, ils doivent aussi cette qualification aux résultats des autres, évidemment. Puisque quand on a 0 points au bout de 3 journées, il faut aussi miser sur les contre-performances des autres clubs. Et si Donetsk n'avait pas marqué deux buts à la 93e pardon, et 98e minute à Zagreb lors d'un 3-3 un peu spectaculaire, eh bien l'Atalanta ne serait pas passé, n'aurait pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Guillaume, tu retiens quoi de cette phase de groupe et on évoquera ensuite le huitième de finale contre Valence.
Comme tu l'as dit, le premier match, c'était le premier de l'histoire de la DA, donc ça n'a pas été simple, il fallait l'absorber. C'est sûr que ça a été une première rouste. Les deux défaites suivantes, tu l'as dit, elles étaient un peu moins méritées, un peu moins sévères. Après contre City, évidemment, à la base c'est plus compliqué, mais au fur et à mesure du temps, même en championnat, ça les a aidés. Il y a eu l'euphorie qui s'est installée et voilà, petit à petit ils se sont pris au jeu, ils ont remonté et comme tu as dit, les autres résultats ont favorisé aussi cette qualification et voilà, au fur et à mesure du temps ils se sont offert la possibilité de se qualifier en huitième et après je vais te laisser parler, mais les huitièmes de finale se sont très bien passés.
Exactement, Guillaume, puisque en huitième de finale ça a été absolument bien maîtrisé entre le match aller et le match retour. Alors le match aller, j'ai pas envie de dire qu'il est un peu en trompe-l'œil, mais le 4-1 est très sévère quand même pour les Espagnols, puisque autant ils avaient un peu pris l'eau en première mi-temps, autant en deuxième mi-temps, ils avaient vu quand même beaucoup d'opportunités de marquer. On a vu un très bon match de Golini dans les buts de l'Atalanta. Mais c'est vrai que l'Atalanta, alors ce qui a été marquant sur à la fois le match aller et le match retour, c'est quand même les erreurs défensives, notamment de relance et de positionnement. Mais malgré tout ça, la force de frappe offensive de cette équipe a permis à l'Atalanta de finalement assez bien maîtriser ces deux rencontres, avec quand même 8 buts marqués en 8e de finale de Ligue des Champions. Pour une première campagne, c'est quand même très marquant. Et puis on a eu, alors c'est vrai que on commençait déjà à avoir une période compliquée lors du match retour, avec l'apparition très marquée du coronavirus en Italie. Mais on a eu le quadruplé de Josip Ilicic sur la pelouse de Mestalla, et c'est vrai que ça a donné du baume au cœur à toute une région. Mais c'est vrai que cette performance, elle est aussi marquante, puisque on attendait beaucoup de cette double confrontation. Alors beaucoup disaient oui, en fait c'est le seul huitième de finale qui va pas m'intéresser parce que c'est pas des très grands clubs, on va dire, qui font pas partie du top 10 voire même du top 15 européen. Mais malgré tout, je pense qu'on a eu sans doute deux des plus beaux matchs. Alors tout ne s'est pas terminé malheureusement, mais deux des plus beaux matchs de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, voire de toute l'édition de la Ligue des Champions, lors de cette opposition entre Valence et l'Atalanta, qui au départ avait un niveau assez équivalent, mais grâce au système Gasperini qui est bien en place maintenant, des joueurs qui se connaissent par cœur, des joueurs qui ont un volume physique, une densité physique beaucoup plus importante que d'autres clubs, on a réussi à avoir une Atalanta vraiment très performante, et ça a été vraiment très marquant de la saison jusqu'à maintenant. Alors on dit de la saison parce qu'on ne sait pas si elle va reprendre, Guillaume, mais jusqu'à ces dernières semaines, en tout cas ces derniers jours, ça a été vraiment très très marquant, peut-être plus qu'en championnat où certes il y avait toujours beaucoup de buts, beaucoup de cartons, mais là on s'est dit ok, en Ligue des Champions, là l'Atalanta vient de passer un palier.
Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que même au-delà de la Ligue des Champions, et ça y contribue, moi j'ai envie de te dire, et on l'avait déjà dit dans ce podcast, c'est que l'Atalanta est devenue une place forte de la Serie A. Aujourd'hui, tout le monde la connaît. J'ai envie de te dire que la saison Ligue des Champions, c'est un peu l'avènement de l'Atalanta, mais en championnat aussi, elle est quatrième alors jusqu'à aujourd'hui. 70 buts marqués, enfin des 5-0 contre Milan et Parme, ils en ont mis 7 au Torino à Turin. Enfin, c'est vraiment devenu une équipe qu'on peut plus considérer comme une surprise. C'est évidemment une très belle histoire, une histoire qui est rafraîchissante, qui fait du bien. Parce que le jeu est séduisant, on voit beaucoup de buts, on sait qu'on ne s'ennuiera pas en regardant l'Atalanta. C'est vrai que combiner ce qui se passe en championnat et évidemment surtout la Ligue des Champions pour une première saison dans l'histoire, voilà, c'est tout simplement exceptionnel. On a vu des superbes scènes à San Siro. Enfin voilà, c'était vraiment, c'est pour moi l'une des plus belles histoires du football italien, forcément récente, parce que voilà. Moi, je suis encore jeune, donc c'est une de mes plus belles histoires, même personnelles. Et voilà, moi, je suis content qu'aujourd'hui, tout le monde connaisse et reconnaisse l'Atalanta, même au niveau européen. Et cette saison Ligue des Champions ne fait que confirmer l'énorme travail de Gasperini, de Percassi, le président, de la cellule de formation, de recrutement, et des joueurs que chaque année, on découvre, on redécouvre. Malinowski, peu ou pas grand monde le connaissait. Aujourd'hui, bah, il est courtisé par les plus grands clubs. Le Papou Gomez, qui prend quand même une belle revanche, qui est très sous-coté, et qui aujourd'hui, voilà, on reprend un peu de galon. Je pense à Ilicic, tu l'as dit, quadruple la balance, un talent brut, qui a toujours eu des hauts, des bas, beaucoup d'inconstance en Serie A, que ce soit à Palerme ou dans ses anciens clubs. Et aujourd'hui, voilà, il met 4 buts à la balance, dans un contexte certes particulier. Mais voilà, c'est vraiment l'avènement de beaucoup de choses. Et l'Atalanta est quand même une superbe histoire. Et je comprends que tu l'aies mise dans tes 10 histoires de la saison.
Alors, avant de passer au numéro 2, je vais faire une petite précision. Si vous avez l'impression que le son est peut-être un peu moins bon que d'habitude, c'est un peu normal. De mon côté, je suis pas en confinement dans mon lieu habituel de vie en région parisienne, puisque j'étais déjà à la campagne quand la mesure a été annoncée. Donc, j'ai un débit qui est très faible.
Tu t'es confiné dans la campagne.
Exactement. Bah, j'avais pas trop le choix, en fait. Et donc, le débit étant moins important, vous en doutez, qu'en région parisienne, parfois il peut y avoir des petits sons un peu bizarres quand on parle, mais on espère que ça va rester audible malgré tout. Le numéro 2, Guillaume, c'est le message de Caputo. Alors, pour revenir un petit peu à la base, alors déjà, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, évidemment, toi aussi, on en avait parlé beaucoup lors de la saison dernière à Empoli, et puis moi, c'est vrai que j'ai un regret que j'ai déjà exprimé ici, c'est de voir que Caputo est finalement arrivé peut-être un an trop tard, à Sassuolo, qui avait déjà vendu beaucoup de cadres l'été dernier, et donc j'aurais aimé voir cette équipe de l'année passée de Sassuolo avec un numéro 9 comme Caputo, puisque c'était un gros problème de Sassuolo la saison passée dans la finition. Mais on va parler de Caputo pour autre chose, un joli geste, Guillaume. Lundi 9 mars 2020, alors que le gouvernement italien a déjà annoncé une quarantaine partielle qui était valable pour la Lombardie et 14 provinces autour, et que le gouvernement italien aussi s'évertue à demander déjà aux Italiens de limiter leurs déplacements partout sur le territoire, on a un match entre Sassuolo et Brescia. C'est un match reporté déjà pour cause de coronavirus. Ils se disputent à 18h30, c'est un horaire un peu inhabituel. En même temps, tout le pays est déjà très concentré sur l'actualité liée au coronavirus et aux toutes les informations qui arrivent. On sait que le Premier ministre italien doit s'exprimer dans la soirée sur, ça commence déjà à fuiter, une quarantaine totale pour tout le pays. Finalement, Sassuolo s'impose 3-0 et Caputo marque le troisième but, si je dis pas de bêtises, ou le deuxième, je me rappelle plus. Et au moment de célébrer son but, il sort un petit papier avec le message « Restez chez vous, tout ira bien ». Voilà un message fort qui était destiné à la population italienne dans son ensemble et pas seulement aux supporters de Sassuolo, aux supporters de Brescia ou aux gens devant le match. Mais c'est vrai que c'est un symbole fort dans un pays qui a un véritable attrait et même un amour particulier pour le football. De voir un joueur qui a une tribune ce soir-là pour s'exprimer, lancer ce message à la fois de prévention en demandant aux gens de rester chez eux, mais aussi un message d'espoir, un message positif en expliquant que tout ira bien. C'est vraiment un geste de classe qui a marqué les gens, qui a marqué les supporters évidemment, mais c'est aller au-delà de ça. On a vu beaucoup de gens qui s'intéressaient pas forcément au foot ce soir-là sur Twitter en Italie parler de ce message positif de Caputo et notamment toi Guillaume tu le répètes chaque soir sur ton compte Twitter avec la version française mais
oui non mais comme tu dis c'était un beau message très très bref et très intense donc voilà très concis il a tout dit en deux phrases et il faut aussi se souvenir du contexte à l'époque comme tu l'as dit c'était à quelques heures de l'annonce du confinement, au tout début du confinement italien. Et il faut aussi dire qu'on arrivait de plusieurs jours de polémiques, tout sous maillot entre la fédération, la ligue, les clubs, les joueurs. On reporte, on ne reporte pas, on joue pas. La polémique entre Zhang, le président de l'Inter, et celui de la ligue. Bah voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de polémiques aussi en amont. Et peut-être que parfois, on a oublié aussi les Italiens là-dedans et les protéger. Et quand on voit aujourd'hui où en est le pays, voilà, c'était important à l'époque de faire passer ce genre de message. Et comme tu l'as dit, ça vient d'un joueur qui est simple, qui a tout l'air d'avoir une personnalité très belle. C'est aussi un peu un vieux de la ville entre guillemets. Donc voilà, ça vient d'un joueur pas anodin. Donc comme tu l'as dit, c'était un super message à l'époque. Et aujourd'hui, voilà, moi je m'amuse un peu en le traduisant en français, mais tu vois, j'ai pris quand même la démarche de le traduire parce que je le trouve important. C'était pas uniquement pour la blague ou pour l'humour, mais je trouve que voilà, le faire passer face caméra pendant un match de Serie A, même comme tu l'as dit, c'était un horaire un peu inhabituel. Il a largement été relayé. Dans un moment pareil où il y avait un peu de polémique, voilà, Caputo a trouvé les mots justes. Et encore aujourd'hui, on voit souvent sa photo traîner sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'était important et c'était bien de sa part.
Alors le troisième item, Guillaume, c'est lié à Lorenzo Pellegrini, que j'appelle l'héritier, entre guillemets, du côté de la Roma. Alors il faut rappeler un petit peu de contexte, évidemment. La Roma a perdu Francesco Totti et Daniele De Rossi entre mai 2017 et mai 2019. Ça a été deux vraies blessures très profondes pour les tifosi romanisti, parce que c'était évidemment au-delà de tout ce qu'ils apportaient sur le terrain, alors l'un beaucoup plus que l'autre au final d'un point de vue totalement sportif, c'était aussi deux joueurs très appréciés des supporters, mais parce qu'ils étaient romains, nés à Rome, supporters de la Roma, qui avaient été en Courvasoud dans leur jeunesse, ou dans d'autres tribunes à l'extérieur notamment.
D'ailleurs, De Rossi y est retourné.
Et d'ailleurs, il y est retourné assez rapidement, après avoir pris sa retraite définitive et quitté Boca Juniors, où il a fait une courte pige qui s'est pas forcément très très bien passée d'un point de vue sportif, beaucoup plus d'un point de vue personnel pour l'enrichissement qu'il en a tiré du contact avec le peuple argentin.
En fait, De Rossi, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment un tifoso de la Roma.
Oui,
c'est
totalement.
C'est un supporter qui joue, ou du moins qui jouait pour la Roma. Et d'ailleurs, il a souvent dit dans les derbies, ça prenait souvent le pas, les émotions. Voilà, quand il jouait contre la Lazio, lui, il voyait l'ennemi juré, alors qu'un joueur, on va dire, qui vient d'ailleurs, il n'avait peut-être pas cette sensation, mais lui, était vraiment un supporter, comme on en voit ailleurs, qui était sur le terrain.
Exactement. En fait, la différence principale entre Totti et De Rossi, c'est que Totti était un formidable joueur, un joueur même exceptionnel, supporter de la Roma par ailleurs, alors que De Rossi était avant tout un formidable supporter de la Roma et un bon joueur de football par ailleurs. Et c'est vrai que il était dans tous les excès des Romains, entre guillemets, De Rossi représentait tout ça. C'est les coups de coude quand ça partait mal, c'est la trop grande pression quand on joue contre la Lazio, c'est la folie dingue après avoir, en pléonasme, folie dingue, mais l'énorme folie après avoir marqué un but, à embrasser 50 fois les cuissons du club, etc. Donc quand les supporters de la Roma ont perdu ces deux symboles, ces deux joueurs sur qui ils pouvaient s'appuyer même quand les choses tournaient mal, et ils se sont retrouvés un peu orphelins de tout ça. Et on se disait que ça allait être Florenzi, en tout cas dans les années avant que ces deux joueurs partent, ça, Florenzi apparaissait comme l'héritier logique de la descendance des Romains Romanisti, capitaine du club. Et puis finalement, les relations se sont tendues avec les supporters. Ça a même provoqué au final son départ en janvier, puisqu'il avait aussi perdu sa place sportivement. Mais on sait tous que l'ambiance y a beaucoup participé. Et aujourd'hui, c'est quand même Lorenzo Pellegrini qui apparaît comme le descendant naturel de cette lignée-là, des joueurs emblématiques du club, même s'il a connu, alors ça c'est pour tout le côté affect et contexte, et même, on va s'intéresser un peu au sportif, même s'il a connu une blessure et une longue blessure, hein, c'était un mois et demi à l'automne, un redémarrage un peu compliqué en début d'année 2020, il a quand même été un joueur très important de la Roma en cette saison. Alors si on regarde un petit peu les chiffres, 3 buts et 10 passes décisives en 24 matchs, évidemment c'est déjà un premier témoin, mais pas seulement, il avait une vraie influence sur le jeu offensif de l'équipe, plaçant numéro 10, on rappelle que c'est Di Francesco qui l'avait d'abord placé là, et Fonseca a repris cette idée-là dans le 4-2-3-1 du technicien portugais. Son profil technique est intéressant parce que c'est un joueur qui à la fois des vraies qualités techniques dans la dernière passe ou l'avant-dernière passe, une très bonne vision du jeu aussi pour évaluer la situation avant de déclencher la passe ou le geste technique. C'est aussi un joueur qui court beaucoup, donc qui a un vrai apport athlétique dans cette équipe, et puis c'est aussi un joueur qui est capable de marquer des buts. Alors moins cette saison, parce qu'on est à 3 buts pour le moment, mais il faut se souvenir que avec Di Francesco à Sassuolo, il avait fait comme une saison à 10 buts en Serie A. Donc c'est un joueur qui est capable aussi de marquer, qui a plutôt une belle frappe. Donc voilà, c'est un profil très intéressant, c'est un profil qui plaît aux supporters. Alors évidemment, t'en as toujours certains qui, dès qu'ils passent au travers, sont plus durs, comme ils ont été plus durs avec Totti et Florenzi quand ils passaient au travers. On dit toujours qu'on est plus dur avec les gens qu'on aime. Ça se vérifie aussi du côté de la Roma, mais c'est un joueur sur lequel la Roma va compter, je l'espère, lors des prochaines années. Et puis on sait tous que Totti tient en estime Pellegrini, il l'a dit lors de beaucoup d'interviews, notamment lors de son départ total de la Roma, puisqu'il y était comme dirigeant ensuite. Il avait eu un message très fort pour Lorenzo Pellegrini, avec qui il discute régulièrement, donc à voir si ça sera l'héritier naturel de tout ça, mais c'est vraiment un joueur très intéressant, moi qui me plaît beaucoup, qui est encore irrégulier, mais j'ai envie de dire un peu comme toute l'équipe de la Roma, donc ça change pas trop forcément. J'espère aussi que la Roma arrangera ce côté vilaine blessure parce que lui il a déjà goûté lors des dernières semaines, mais vraiment sa saison est très intéressante. Voilà pour
d'ailleurs résumer. À ce propos-là, tu parlais de Florenzi et Pellegrini par rapport à Totti. Moi j'ai souvent eu contact avec des journalistes romains qui sont à Rome et qui suivent la Roma, et qui me disaient que Florenzi, alors pas officiellement mais du moins officieusement, je sais pas si toi t'en sais plus ou du moins ce que t'en penses, voilà, quand il disait que Totti en gros m'a donné un peu le brassard virtuellement à Pellegrini, Florenzi, c'est pas qu'il l'a mal pris, mais disons que voilà, il s'est senti un peu je peux pas dire trahi parce que le mot serait fort, mais tu vois, lui aussi est voilà, romain de la Roma, et quand Totti, comme tu l'as dit, a dit bah voilà, Pellegrini est entre guillemets mon héritier, voilà, Florenzi l'a un peu mal pris. Et en soi, voilà, est-ce que toi ça t'a étonné par exemple son départ à Valence, c'était en janvier?
Surpris pas forcément, puisqu'il avait perdu sa place et que la situation devenait plutôt intenable pour lui, et notamment avec une pression très forte des supporters. Je vois ce que tu veux dire. En fait, pour en parler aussi avec des gens sur place et en ayant ma propre observation des choses, en fait, Florenzi a rarement fait partie de la cour du roi. Alors, Totti étant le roi, mais Totti aime beaucoup les gens qui flattaient aussi un peu son ego, parce que tout champion a un ego très important, ça c'est évident. Et Pellegrini faisait partie de cette cour-là. Pellegrini était très proche de Totti, faisait partie un peu de la cour, et Florenzi était un peu plus distant. Voilà, c'était pas quelqu'un qui, alors j'ai pas envie de dire le mot, mais c'est vrai que il y a, tu sais, le côté un peu faillot, quoi. Disons que Florenzi était un peu plus écarté de ça, et bah Totti avec son ego a eu plus de proximité, on va dire, avec Pellegrini qui était très proche de lui qu'avec Florenzi. Voilà, si je peux résumer un peu la situation sans parler de non plus de faillotterie, mais ça y ressemble un peu quand même. Et ça explique aussi pourquoi Totti avait pas trop cité Florenzi lors de ses discours d'adieu. On passe au numéro 4, Guillaume. Ça concerne les promus. C'est pas la première saison qu'on en parle. Pour ça, c'est les promus qui jouent le jeu. On avait eu Empoli la saison dernière, qui reste un peu notre référence à ce niveau-là. Mais alors déjà, il faut dire une chose. On va distinguer Lecce et Brescia de l'Hellas Vérone, puisque c'est deux choses un peu différentes. Il y en a deux qui, on va dire, qui ont un jeu un peu plus, un jeu de proposition, qui joue un peu plus au foot. Alors certes, tout n'est pas parfait. T'as même parfois l'impression que le jeu est un peu trop ambitieux par rapport aux joueurs qui sont sur le terrain et au niveau de certains. Mais on va dire qu'il y a un vrai fil conducteur et des équipes qui n'hésitent pas à aller de l'avant, à construire des choses de l'arrière, à prendre des risques, etc. De l'autre côté, on a une équipe de l'Hellas qui est beaucoup plus solide, attentiste, qui se projette beaucoup une fois qu'elle a récupéré le ballon en contre. Une équipe plus dans la transition que dans la proposition initiale, on va dire ça comme ça. C'est un style, on va dire, un peu plus basique, avec une grosse exploitation des coups de pied arrêtés, puisqu'ils ont des défenseurs qui sont très bons sur cette phase de jeu. Et puis aussi des fins de match, puisque c'est une équipe qui a par contre beaucoup de caractère, l'Hellas. Ce qui fait un peu défaut à Lecce et à Brescia. C'est vraiment deux équipes très éloignées dans leur manière de fonctionner à tout point de vue, à la fois sportivement, psychologiquement, mentalement. Mais on va dire que Lecce et Brescia, moi, bah, je sais que c'est pareil pour toi, Guillaume. On a souvent dit qu'elles étaient mal payées par rapport à ce qu'elles proposaient sur le terrain. Et c'est vrai que c'est dommage parce que ça peut en conforter certains, et je pense beaucoup à l'équipe de Parme quand je dis ça, à jouer un football très défensif, très restrictif, très minimaliste, parce que bah ils réussissent à gagner des matchs comme ça et à être confortablement installés dans le ventre mou du classement, quand des équipes qui sont un peu plus ambitieuses dans le jeu, comme Lecce et Brescia, elles galèrent pour ne pas descendre. Alors Brescia, on ne sait pas comment la saison va se finir, si elle se finira et quelles seront les décisions prises. Mais toujours est-il que
ça sera compliqué, disons, que ça se finit, pour Brescia.
Que ça se finisse bien pour Brescia, ce sera compliqué, quoi qu'il arrive. Et c'est malheureux parce que moi, j'ai en souvenir des matchs contre la Juve et contre la Roma, contre Milan, où Brescia avait vraiment été bon et très très mal payé en termes de résultats, Guillaume.
Oui, totalement, totalement. Et on peut dire aussi pareil de Lecce, hein. Moi, j'ai en souvenir, alors c'est le premier match de l'année et de la saison. Mais tu sais, ce Inter-Lecce, que l'Inter domine et gagne 4-0 après une belle première mi-temps de Lecce. Donc c'est vrai qu'ils sont souvent mal payés, aussi dû forcément vite. Mais moi, de ce que je retiens de ce que tu dis des promus, on peut aussi souligner les coachs. Tu vois, un coach comme Juric, qui est clairement un disciple de Gasperini, qu'il a connu en tant que joueur et adjoint. Voilà, aujourd'hui, on voit qu'il met des beaux concepts sur le terrain. Lecce, c'est quand même une équipe, comme tu l'as dit, qui est un peu physiquement dure, mais qui dans le jeu est toujours voilà dans la proposition, dans l'attaque.
Je trouve moins quand même que Brescia et Lecce. Moi, je trouve que c'est quand même plus restrictif ce que fait Juric. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus attentiste en fait que Lecce et Brescia. Alors c'est leur force, à voir si ça peut évoluer, mais moi je trouve que voilà, on n'est pas sur le même calibre en termes de production dans le jeu ou d'état d'esprit au départ pour aller conquérir des points que Lecce et Brescia. Je trouve qu'il y a, enfin en tout cas, hein, on n'est peut-être pas d'accord là-dessus, mais je vois une vraie différence entre les...
Oui, je peux être d'accord avec toi, mais j'ai envie de te dire que c'est aussi une question interprète. Tu vois le milieu de l'Hellas par exemple, comparé à celui de Brescia ou Lecce, bon bah peut-être que Juric s'adapte aussi à des joueurs qu'il a voulu, mais disons qu'il y a des profils différents et en fonction du matériel les coachs s'adaptent, pardon. Mais par exemple un entraîneur comme Livi Verani, on en a souvent parlé dans cette saison dans le podcast Catch UPP, mais Livi Verani qui est mal payé aussi sur le banc de Lecce, quand même.
Totalement.
Un entraîneur très intéressant qui propose de très belles choses. Je vous rappelle aussi de la victoire à Naples, hein. Ils avaient été gagnés à Naples. Enfin voilà, les promus, comme tu l'as dit, chaque année quand même en Italie, ne partent pas avec un esprit défaitiste en disant on va renier quelques points ici et là avec à la base une défense solide, comme tu as dit, comme on peut le voir par exemple à Parme ou ailleurs. En tout cas, il est promu. Je me rappelle d'Empoli, tu te souviens d'Empoli l'année dernière, qui avait proposé des belles choses, qui était redescendu malheureusement en fin de saison, mais qui avait proposé des belles choses tout au long de la saison. Et on a aussi des belles révélations, que ce soit Lelas avec Ramrani, Kumbula, avec Lecce, avec Falco, qui est un joueur quasiment inconnu, il y a encore un an quand il joue en Serie B, un peu inconstant, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est un joueur d'une technique folle et qui est très beau à voir jouer. Donc voilà, les promus chaque année nous offrent des belles choses. Et on parlait, je parlais d'Empoli, on va dire que Di Lorenzo par exemple aujourd'hui est à Naples, Benacer est à Milan, et c'est deux titulaires. Il y a eu Traoré aussi qui est parti, donc il y a encore un peu de mal cette saison.
On a Traoré et Caputo à Sassuolo aussi.
Exactement. Ouais. Donc voilà, il y a des bons joueurs, il y a des beaux coachs. Et donc voilà, c'est toujours bien de voir des promus qui n'ont pas un esprit, je sais que tu aimes bien ce mot, Johan, minimaliste, comme on l'a parfois entendu en France. Mais c'est pour ça qu'en Italie, et on en parlera peut-être après, il y a aussi beaucoup de buts. Donc, ça contribue à la beauté du championnat et à la beauté de la saison qu'on a cette année.
Alors, tu parlais de beauté, on va rester sur cette thématique-là avec le but de Dybala contre l'Inter. Alors, c'est un peu difficile parce que quand on essaie de regarder la globalité d'une saison, forcément, les souvenirs les plus frais sont les plus récents. Et parfois, c'est un peu difficile, on a l'impression parfois d'être dans le jus totalement et d'avoir une mémoire qui s'efface au fur et à mesure et qui est remplacée par les trucs plus récents. Et donc c'est toujours un peu difficile de juger du plus beau but par exemple ou ce genre de choses là, mais sans parler de plus beau but de la saison, moi c'est un but que je trouve magnifique. Je vais répéter l'action, raconter l'action très rapidement. C'est une place longue de Bentancur vers le côté droit où est Dybala qui, grâce à un contrôle de l'extérieur du pied gauche, se réaxe et élimine Ashley Young sur ce contrôle. Il prend appui sur Ramsey qui lui remet le ballon à l'entrée de la surface. Et là, cher Guillaume, le crochet intérieur pour éliminer encore une fois ce pauvre Ashley Young qui est donc mystifié deux fois sur la même action, avant d'enchaîner un extérieur du pied gauche au ras du poteau d'Andanovic qui, au final, tu t'en rends compte sur ses appuis, est totalement pris par la rapidité d'exécution de l'Argentin. En fait, j'ai le sentiment que quand Andanovic sort un petit peu, il avait le sentiment que Dybala allait faire un appui de plus avant de tenter de frapper au but. Et en fait, Dybala, sur le premier appui, met son extérieur du pied gauche au ras du poteau. Moi, je trouve que c'est l'un des plus beaux buts de la saison. Alors malheureusement, c'est dans un stade vide, puisque c'était déjà des matchs à huis clos, le match entre la Juve et l'Inter. Et puis ce but, Guillaume, ça nous permet de faire un petit laïus aussi sur Dybala. On en parlait en off juste avant de débuter, hein, d'ailleurs, Guillaume. C'est un joueur fantastique. C'est vraiment un artiste quand il a la balle entre les pieds. Il a deux défauts. Le premier, c'est d'être encore trop irrégulier. Et c'est encore le cas cette saison, je trouve. Malgré un gros début de saison, tu te souviens, Guillaume, on se disait, ah tiens, allez, c'est parti, Dybala est de retour. Après les derniers mois compliqués avec Allegri qui le mettait un peu à toutes les sauces, à droite, en soutien de l'attaquant, surtout à droite d'ailleurs, on se disait, bon, allez, là, avec Sarri, c'est parti. En plus, on se disait, avec le jeu de Sarri, ce qu'on avait en souvenir de Naples, d'Empoli, un joueur aussi technique, intelligent dans les déplacements, aussi juste techniquement, on se dit, ouais, ça va rouler comme pas possible. Les premiers matchs nous donnent cette impression-là. Et puis, assez rapidement, au final, au bout de quoi, 7, 8, 10 journées, Dybala va un peu plonger comme le reste de l'équipe, sachant qu'il est aussi dans une juve décevante, hein, Guillaume, au niveau du collectif. Oui. Donc c'est au final dur de j'ai pas envie de dire de lui en vouloir, mais de se dire bon bah c'est, on peut pas le qualifier comme déception d'être encore irrégulier cette saison, parce qu'au final c'est toute la Juve qui tout saute un peu cette saison.
Tu sais, à part Ronaldo, honnêtement, qui a surnagé dans cette Juve décevante ces derniers temps?
Même
Pjanic a été décevant, hein, cette saison, faut le dire aussi. Donc voilà, je te dis, à part Ronaldo, c'est assez rare un joueur qui a aussi surnagé à la Juve.
Alors que pendant le confinement, une crise de couple éclate chez Guillaume avec de la vaisselle cassée. C'est terrible. On n'est qu'à une semaine de confinement et ça se passe déjà mal.
Je crois que ma compagne en a marre, mais ce n'est pas cette tasse qu'elle a voulu me jeter dessus qui aura ma peau. Sachez-le. Donc,
t'es bien plus résistant que ça.
Bien évidemment. Mais pour revenir sérieusement à Dybala, le joueur et le potentiel, honnêtement, ne se discute pas parce qu'on connaît tous ses qualités. Et lui aussi, cette saison, a porté de la Juve, surtout en première partie. Ensuite, voilà, il est rentré dans le rang au fur et à mesure du temps. Il faut aussi dire que l'été dernier, Paratici, le directeur sportif, avait aussi voulu le vendre. Dybala voulait rester, mais Paratici avait essayé de le refourguer, entre guillemets, en première ligue. On sait que la saison de Dybala, elle est encore un peu en dents de scie. Et voilà, j'aimerais bien le voir vraiment toute la saison, tu sais, au niveau auquel on est en droit de s'attendre d'un joueur comme lui. Et c'est vrai que ce but, pour revenir à ce but-là contre l'Inter, voilà, ça résume le pourquoi aussi on aime le football. Enfin, on ne peut que se lever face à un but comme ça. Moi, là, entre parenthèses, j'ai aussi beaucoup aimé le but de Ronaldo contre la Sampdoria, tu te rappelles, Johan?
Oui, la détente.
Le but de la tête, voilà, où il se lève à peu près à 8 m 10 de hauteur, donc voilà. Mais ce but de Dybala, voilà, c'est un chef d'œuvre.
En but de la saison, Guillaume, qui me revient aussi, il y a le coup franc d'Ilicic sur la pelouse du Torino de 60 mètres.
Totalement. Bah, on a eu des jolis buts cette saison, même N'Golan, on a pas
oui, la demi-volée contre, alors par contre, je me rappelle plus de l'adversaire, mais la demi-volée en lucarne était somptueuse.
Voilà, il y a vraiment eu des buts exceptionnels. Mais voilà, celui de Dybala, dans tout ce qui est beauté, esthétisme, voilà, il rassemble beaucoup de choses. La classe, l'élégance, voilà, il y a vraiment tout dans ce but-là. C'est un chef-d'œuvre pur. Voilà, encore une fois, moi j'ai une petite réserve sur Dybala, comme toi. J'aimerais vraiment qu'il reste vraiment à un haut niveau toute une saison. Mais voilà, et c'est aussi de la Juve, et il a pas surnagé dans cet effectif. Et comme je l'ai dit en début de propos, c'est que voilà, à part Ronaldo qui a enchaîné les buts cette saison, Dybala à un moment est rentré dans le rang. Et voilà, c'était aussi compliqué pour un joueur de ce calibre.
Alors notre sixième item est à la découverte des nouveaux venus. Alors c'est toujours quelque chose que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est de voir les joueurs qui sont recrutés de l'étranger et voir ce qu'ils donnent un petit peu en Serie A, parce qu'on a souvent des vraies révélations dans différents clubs. Alors là, j'ai pris des joueurs qui sont plutôt au départ, hormis un, plutôt deuxième partie de tableau. J'ai Naita Nandez à Cagliari, Amir Rahmani à l'Hellas, Takehiro Tomiyasu à Bologne, Sofiane Amrabat à l'Hellas, Rodrigo Becao à l'Udinese, et j'ai Ruslan Malinovski comme exception du côté de l'Atalanta. Alors Kumbula, c'est un peu différent parce qu'il était déjà à l'Atalanta. Mais c'est sa première vraie saison comme titulaire. Et en plus, c'est en Serie A. Il avait très peu joué. Il avait joué, je crois, 10 minutes ou un quart d'heure. Je sais plus. Là, ils sont passés en Serie B. Alors, avant de détailler un petit peu, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est d'aller écouter le podcast spécial, pardon, Les joueurs méconnus et sous-cotés de Serie A sur notre Patreon, puisqu'on avait parlé de certains de ces joueurs-là. De mémoire, on avait dans l'eau, on avait Nandez, Rahmani, Malinovski, en tout cas cela c'est sûr dans notre liste des joueurs méconnus et sous-cotés, donc allez voir sur notre Patreon, patreon.com/calcioepp, pour écouter ce podcast. Cette saison elle nous offre au final encore pas mal de belles découvertes. Guillaume, j'ai parlé de ces noms, mais il y en aurait sans doute d'autres. Là c'est les premiers qui me sont venus à l'esprit de joueurs arrivant de l'étranger et qu'on n'attendait pas forcément, ou en tout cas qu'on attendait de voir avant de juger. C'est des joueurs qui étaient méconnus, qui réalisent une première belle saison dans l'élite. Et le truc, c'est qu'il peut y avoir une bascule très rapide.
Est-ce que tu penses qu'ils pourraient aller plus loin, plus haut?
Il y en a beaucoup qui vont aller plus loin déjà, puisque on peut rappeler que Rahmani a signé à Naples, Cam Rabat a signé à la Fiorentina. C'est deux deals qui ont été conclus pour le mois de juin prochain. Logiquement, on verra ce qui se passe au niveau des contrats et des transferts. Mais je pense que ça sera pas les seuls. Je pense que tu vois qu'un mec comme Rodrigo Becao, il fait une très belle première saison à l'Udinese et peut viser plus haut. À voir si ça sera en Italie, parce qu'on sait que l'Udinese ça peut envoyer très vite aussi du côté de Watford en première ligue. Mais un joueur comme Tomiyasu par exemple, que j'aime beaucoup, une grosse activité sur le côté droit, beaucoup d'énergie, un bon sens de l'anticipation techniquement qui est très très intéressant également, tu vois. Alors Bologne est un peu plus sérieux comme projet, enfin sérieux, un peu plus de moyens entre guillemets que les Las Véron, donc je pense qu'ils peuvent encore le garder un an. Mais tu vois, j'imagine que des clubs comme je sais pas moi, la Fiorentina, la Roma, le Milan, le Napoli peuvent être aussi intéressés par ce type de profil. Avec évidemment pour moi le joueur que j'attends de voir avec une très grande impatience dans un plus grand club, c'est Nathan Nandez, dont je suis totalement tombé amoureux cette saison du côté de
Skovelsen. Je sais que c'est aussi un petit chouchou. Hein.
Skovelsen et Gerdich Rutten, c'est deux chouchous que je connais, enfin que je suivais beaucoup aux Pays-Bas et au Danemark avant qu'ils arrivent à Bologne. Pour le moment, c'est encore un peu tôt. Skovelsen a un peu de mal, je trouve, à entrer. Alors, le problème de Skovelsen, c'est qu'il a devant lui Orsolini, qui est quasiment intouchable hein, à Bologne cette saison, donc il a un peu moins de temps de jeu. Quand il a joué plusieurs fois là en numéro 10, mais tu sens que c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'il a pas la vision du jeu pour et l'intelligence de jeu pour le moment pour jouer à ce poste-là. Quand il est ailier, il peut un peu plus miser sur des différences individuelles, alors que quand t'es 10, tu joues un peu plus avec les autres joueurs. Donc pour le moment, c'est compliqué. Il a un énorme potentiel. C'est un mec qui a un pied gauche formidable, qui est un tueur devant le but. Donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Et puis pour le milieu de terrain néerlandais, il commençait à gagner sa place avant l'arrêt de la Serie A. Donc à voir, mais lui c'est un joueur avec une très grosse densité, très facile à éviter les contacts, à se sortir de la pression, à faire jouer son équipe, à jouer vertical. Donc c'est un joueur qui est hyper intéressant. Donc j'espère que eux aussi participeront à ces jeunes joueurs qui, lors de leur première saison, se sont montrés. On verra ce qu'il en sera lors des prochaines semaines de cette première saison, si elle se terminera ou pas. Mais eux, tu vois, par exemple, ils resteront sûrs du côté de Bologne. J'imagine absolument pas Bologne s'en séparer cet été.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que alors c'est connu et reconnu, et les joueurs le disent toujours en premier lieu, mais c'est que la Serie A est un championnat très tactique, où on se focalise beaucoup sur cet aspect-là. Et pour des joueurs aussi parfois venant de l'étranger, il y a aussi évidemment une période d'adaptation, assimiler les concepts, les principes tactiques, les entraîneurs italiens qui sont très focalisés là-dessus et qui passent des heures, que ce soit à la vidéo ou même sur le terrain. Donc la deuxième saison, parfois j'ai envie de dire, est plus intéressante que la première, parce que tu vois aussi à quel niveau peut se situer un joueur et à quel niveau il peut arriver. Donc c'est aussi intéressant. De voir ce qui va devenir de ces joueurs-là. Et comme tu l'as dit, il y a des deals de bouclés. Par exemple, Napoli a voulu anticiper tout le monde sur Amrabat. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui font que ce sera des joueurs à suivre la saison prochaine.
Alors, en autre point positif, puisque nous sommes dans les choses positives depuis le début de la saison, on a le suspense en haut de classement, Guillaume. Trois équipes à la lutte pour le titre, ça fait quand même un petit moment que ça ne nous était pas arrivé.
Trois, disons que ça faisait longtemps. Hein.
Alors, on a potentiellement trois équipes en 6 points avec le match en retard de l'Inter. D'abord, ça a été une lutte à deux entre la Juve et l'Inter en début de saison. Puis la Lazio s'est mêlée à la course au point, au final, quasiment de devenir, au fil des semaines, un peu le favori du Scudetto. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais notamment, alors on va en reparler un peu après, donc je vais pas trop spoiler là-dessus, mais effectivement cette équipe de la Lazio aujourd'hui est dans les très grands favoris, si ce n'est le très grand favori de cette course au Scudetto. Bon, on verra ce qu'il adviendra encore une fois de cette saison. C'est difficile de se projeter puisque pour le moment on n'a absolument aucune idée de ce qui se passera dans quelques semaines. Alors pour le suspense, ce que j'aime, c'est que effectivement il y a trois équipes. On avait eu sur l'ultra domination de la Juve, on a eu quoi, les deux saisons, peut-être trois si j'en oublie une.
Il y a eu la Roma de Garcia qui a un peu tenté de titiller la Juve à l'époque.
Sur la première saison de Garcia, effectivement, ouais. Où il y a un départ canon. Et le Napoli de Sarri avec les 91 points. Moi je retiens ces deux années-là vraiment où on s'est dit bon, ça peut peut-être basculer du mauvais côté pour la Juve. Mais autrement, ça a été quasiment du cavalier seul toute l'année, avec au moins 6, 7, 8, 10 points d'avance sur le deuxième très rapidement. Donc là, cette saison, ce petit manège à 3 me plaît bien. Et puis, tu sais, il y a un truc tout bête, hein, c'est que là, avec trois équipes concernées comme ça, en fait, personne peut trop faire de turnover. Parce que du coup, tu peux pas perdre 2 points. Tu peux pas te dire, bon, là, c'est au pire, si je perds 2 points, si je fais seulement un match nul à l'extérieur sur ce match-là, c'est pas grave, je pourrais me rattraper à domicile, etc. Non, là, t'as pas le choix. En fait, la course, elle est tellement serrée avec des équipes qui donnent tout et qui prennent beaucoup de points chaque mois, chaque semaine. Et tu peux pas trop faire de turnover parce que risquer du turnover, c'est risquer de perdre des points dans la course au Scudetto et d'être définitivement écarté. Donc, je trouve que cette émulation, elle est hyper intéressante et ça pousse les équipes et les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes chaque semaine, Guillaume.
Et surtout, la différence qu'il y a aussi entre les trois équipes, c'est qu'il y en a une qui est à Lazio, qui n'a plus qu'une compétition à jouer, la Serie A, et l'Inter qui a encore l'Europa League et une demi-finale de Coupe d'Italie, et la Juve aussi, qui a une demi-finale de Coupe d'Italie et le retour contre l'AC Milan, et évidemment le match retour contre l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est sûr que à l'instant T, c'est compliqué de se projeter sur le futur de la saison et sur ce qui va en advenir. Mais c'est vrai que ce combat à trois coqs est très intéressant. Ça fait très longtemps que, surtout, j'ai envie de te dire, à ce niveau-là de la saison, une course à trois, c'était rare. Ça fait du bien, évidemment, pour le suspense, moins pour les tifosi de la Juve qui préféraient probablement être plus tranquilles. Mais c'est vrai que sur la dynamique, et tu l'as dit au début de ton propos, sur la dynamique, évidemment, qu'à Lazio, qui a vaincu depuis 21 matchs, ce qui n'est pas rien quand même. 21 matchs, c'est une éternité. Qui a des cadres qui sont revenus au niveau, comme Milinkovic-Savic, qui a été éblouissant et époustouflant contre l'Inter lors du choc remporté par Lazio 2-1. Je pense aussi à Luis Alberto, vrai leader technique de l'équipe de Simone Inzaghi. J'ai envie de te dire aussi, Johan, que c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de la série cette saison. Si ce n'est le meilleur, il y a des bas, mais en tout cas, Luis Alberto cette saison est superbe et on le retrouve au niveau qu'on a pu le connaître. Et voilà, évidemment, Simone Inzaghi aussi, pardon, qui avec son 3-5-2, qui à chaque fois c'est le réinventer en fonction des interprètes. Voilà, Lazio est vraiment cette équipe qui est sur une dynamique importante et là, à l'instant T, j'ai envie de te dire, oui, pour moi, Lazio est favorite. Après, voilà, il y a eu cette suspension et malheureusement. Donc, c'est compliqué de se projeter aujourd'hui et de dire quel sera le favori parce qu'on ne sait pas quand on va reprendre, on ne sait pas dans quelles conditions. Donc, voilà, il y a toutes les cartes d'un point de vue sportif sont rabattues. Donc voilà, c'est difficile. Mais en tout cas, c'est sûr que ce suspense, on l'attendait depuis longtemps, il est arrivé. Bon, malheureusement, voilà, il l'a interrompu quelques temps. L'important pour le moment est ailleurs. Et en tout cas, voilà, on a hâte que ça reprenne. Et c'est sûr que la course promet d'être exceptionnelle. Et on rappelle aussi que la Juve et la Lazio doivent encore s'affronter. Hein. Et que cette année, la Lazio a battu deux fois la Juve au match aller en championnat et en finale de la Super Coupe d'Italie. Donc, voilà, la Lazio s'est prouvée que dans les grands matchs, elle peut battre les grosses équipes.
Alors tu parlais de la Lazio, c'est dans le huitième point, quelque chose de très positif cette saison, c'est que la Lazio dans les grands matchs est enfin performante. Ça a été un peu notre fil rouge la saison passée du côté de la Lazio quand on expliquait qu'elle avait du mal à casser ce plafond de verre. Là où désormais on peut quand même dire qu'il a volé en éclats. J'ai les stats du coup, j'ai un peu fait le tour avant d'enregistrer. Si on prend, alors on va prendre au sens large hein, les grosses équipes, et j'inclus volontairement l'Atalanta dedans, puisque depuis deux saisons, on peut dire que l'Atalanta est effectivement un gros d'Italie. On a donc deux nuls contre la Roma, concrètement, en termes de jeu et de performance. Le match aller aurait dû être largement gagné par la Lazio, le match retour aurait dû être largement gagné par la Roma, mais ça a fait deux matchs nuls, pardon. On a une victoire et une défaite contre l'Inter, une victoire contre la Juve en Serie A+, plus celle que tu avais dit en Super Coupe d'Italie, une victoire contre Milan, une victoire contre Naples, un nul contre l'Atalanta. Donc pour le moment, en 2, 4, 5, 6, 7, en 8 matchs de Serie A face aux gros, entre guillemets, mais j'inclus volontairement Milan-Naples, même si cette saison c'est un peu plus compliqué, on a une seule défaite, Guillaume.
C'est tout l'inverse c'est tout l'inverse de ce qu'on a pu raconter l'année dernière. Donc voilà, Simone Inzaghi, visiblement, a trouvé le truc qui lui manquait. Mais Dieu sait qu'on lui a reproché hein, ces dernières saisons de ne pas gagner contre les gros. Bon, tu l'as dit, le derby retour contre la Roma était à sens unique, mais c'est aussi une force de ne pas savoir le perdre. Et ce point-là, il pourrait bien compter à la fin de la saison. Mais voilà, c'est aussi dû, et j'en parlais il y a quelques minutes aussi, du retour en forme des cadres. Je n'ai pas parlé d'Immobilier, mais l'Immobilier enchaîne aussi les saisons où il marque toujours plus de 20 buts. Donc voilà, c'est vraiment un collectif qui me paraît vraiment à son paroxysme et qui pourrait aller au bout cette saison. Donc c'est ce qu'il manquait pour l'instant à la Lazio de Simone Inzaghi, gagner les gros matchs. T'as fait les comptes, cette saison, elle est là. et le rendez-vous. Pourquoi pas viser le titre? Aujourd'hui, c'est plus une utopie. Voilà, je te dis, voilà, aujourd'hui, maintenant que le championnat est suspendu pour une durée indéterminée, voilà, on ne sait pas quand ça peut reprendre, quand ça va reprendre. Donc, la dynamique de 21 matchs en défaite, elle est là. Mais c'est évident que voilà, si on reprend, on va dire, d'ici, espérons, un mois et demi, peut-être deux mois, voilà, on ne sait pas dans quelles conditions. Donc, c'est possible aussi que cette euphorie soit stoppée brutalement. Mais en tout cas, la Lazio voilà, est au rendez-vous cette saison.
Avant dernière chose qu'on souhaitait mettre en avant dans ce volume 1 des choses positives depuis le début de la saison en Serie A, c'est le spectacle. On a un petit peu teasé dessus en début d'épisode. Ça a commencé très tôt, Guillaume, cette saison, avec des matchs très spectaculaires. Alors, j'ai fait là encore quelques comptes. Première journée, on avait eu un Fiorentina-Naples 4-3 pour les Napolitains. Deuxième journée, un Juve-Naples 4-3 pour les Turinois cette fois. Troisième journée, 4-3 entre Brescia et Bologne pour les joueurs d'Émilie-Romagne. On avait eu aussi dans le même temps un Roma-Sassuolo 4-2. Et du coup, j'ai fait la moyenne de buts par match selon les championnats, puisqu'on présente souvent, la part de connaisseurs, de fins analystes, le championnat comme étant un championnat minimaliste. Et Dieu sait que ça a été vrai dans le passé et que ça l'est plus depuis quand même pas mal de temps. La moyenne de buts par match cette saison en Bundesliga est de 3,25 buts par match. Alors eux, ils éclatent absolument tout le monde. Le deuxième dans les 5 grands championnats européens, c'est la Serie A avec 2,91 buts par match. Viennent ensuite la Première Ligue avec 2,72 buts par match. La Liga avec 2,53 buts par match. Et enfin, la Ligue 1 avec 2,52 buts par match. On a donc une Serie A quasiment qui tourne à 3 buts par match de moyenne depuis le début de la saison. On a des scores fleuves, bien aidés notamment par une équipe comme l'Atalanta qui marque beaucoup de buts, mais c'est un peu le cas aussi, par exemple, du PSG en Ligue 1, de Liverpool du côté de l'Angleterre, du Bayern du côté de la Bundesliga. Et puis, tu vois, en réfléchissant un petit peu sur cette donnée, il y a des équipes quand même qui proposent pas mal de jeux avec des entraîneurs très marqué, dont l'identité est effectivement reconnaissable très rapidement. J'ai pris cinq entraîneurs comme ça qui me sont venus à l'esprit assez rapidement. On a Gasperini, De Zerbi, Liverani, Simone Inzaghi et Paolo Fonseca. Je mets pas trop Sarri dedans cette saison parce que bon, on a assez dit dans nos podcasts à la fois sur le flux normal et sur notre patrimoine en débris de match, Guillaume, que Sarri pour le moment c'était compliqué à la Juve. Mais si tu prends ces cinq entraîneurs, eh bien écoute, tu as Paolo Fonseca qui a 47 ans, Simone Inzaghi 43, Fabio Liverani 43 et Roberto De Zerbi 40. Donc on a des jeunes entraîneurs avec des idées plus affirmées sur le jeu. On n'hésite pas à aller chercher aussi à l'étranger parfois des choses un peu différentes. On se rappelle que la Roma avait été chercher Rudy Garcia aussi sur ça. Dont l'obsession du côté des entraîneurs n'est pas de ne surtout pas prendre de but, mais surtout d'aller en marquer plus que d'autres. Alors c'est pas du tout français ce que je viens de faire, je vais la recommencer, hein, Guillaume. L'obsession n'est pas de ne surtout pas encaisser de but, mais d'aller en marquer plus que l'adversaire. Voilà. Donc l'idée c'est d'aller marquer un but de plus que l'adversaire et pas se dire si on tient le 0-0 à la 65e, un contre et on gagne 1-0. Voilà, ces entraîneurs là, ça marche pas comme ça. Des garçons comme De Zerbi, Liverani, Simone Inzaghi et Paolo Fonseca, c'est pas pour rien qu'on les retrouve aussi dans les meilleures attaques cette saison en Serie A, mais c'est voilà des vraies identités marquées. Et ça fait du bien ce renouveau d'entraîneur. Moi, une saison où on voit pas spécialement Ballardini, Malesani, qu'est-ce que je peux donner encore comme ça.
Bah, Iacchini est revenu, donc.
Oui, Iacchini est revenu, donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais voilà des
saisons. Tu penses que ça vient d'où ce vent nouveau? Est-ce que tu penses que par exemple c'est un peu Liverpool aussi de club avec ce football de transition et plus rapide? Est-ce que ça découle d'une nouvelle pensée philosophique? C'est vrai qu'on constate ces dernières années quand même un changement assez drastique dans la pensée et qui parfois amène à des contrastes. Et on a eu l'exemple parfait ces derniers mois avec, tu l'as suivi autant que moi, le clash Adani-Allegri.
Bien sûr.
Entre un entraîneur qui était alors à la Juve et qui a quasiment tout gagné. Avec la vieille dame et Adani qui est consultant. Alors pour lui malheureusement qui n'a rien gagné, c'est un peu l'argument d'Allegri, mais Adani qui a vraiment une pensée on va dire globale et totale du football et qui pour lui le beau jeu qui amène évidemment au résultat doit primer sur le reste. Donc voilà, on a vraiment ce contraste de pensée en ce moment.
C'est vrai, le constat est vrai. Pour l'explication, je me risquerais pas trop là-dessus parce qu'il faudrait aller voir à Coverciano notamment les cours d'entraîneur pour décrocher son diplôme, voir quelle est la pensée générale, comment les formateurs parlent aux jeunes entraîneurs en devenir. Mais tu vois, par exemple, un mec comme Thiago Motta qui a connu aussi la France et qui a des idées bien arrêtées sur le football et qui sont loin de l'Italie des années 90 voire 2000, ou même de Mourinho qu'il a connu du côté de l'Inter. C'est aussi parce que c'est des entraîneurs, qui sont un peu plus ouverts à l'international. Et puis aujourd'hui, c'est très facile de voir des matchs de tous les championnats dans le monde. C'est facile de voir la Ligue des Champions. C'est facile de voir que des équipes comme Liverpool proposent du jeu, des équipes comme Tottenham proposent du jeu, des équipes comme l'Ajax proposent du jeu. Et bizarrement, les trois étaient demi-finalistes de Ligue des Champions l'année passée. Donc il y a aussi peut-être une évolution en se disant... tout ce qu'on nous a rabâché pendant des années par 95% des entraîneurs de Serie A, enfin j'exagère, 80% des entraîneurs de Serie A avec des mecs comme Zeman et Sacchi qui passaient pour des fous, aujourd'hui ils étaient peut-être pas si fous que ça, et il y a une évolution aussi de la pensée des entraîneurs. Après, mon analyse s'arrête là parce qu'il faudrait vraiment aller voir en détail ce qui se passe à Coverciano, comment les nouveaux entraîneurs sont formés, même en interroger certains. Ça peut être une idée aussi d'un focus qu'on pourrait faire plus tard en se renseignant un peu. Mais effectivement, il y a une évolution de pensée qui est pour le coup vraiment très très positive.
Mais ce qui est évident, c'est que l'Atalanta aussi va y contribuer. Elle contribue déjà et y a contribué.
Oui.
Là, un parfait présent et futur. Mais voilà, on voit aussi qu'à travers le jeu, et peut-être qu'on avait perdu aussi cette pensée-là ces dernières années en Italie, mais à travers le jeu, on peut être très bien quart de finaliste de Ligue des Champions, être dans les hauteurs du classement en Serie A. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Peut-être que parfois en Italie, on s'est un peu perdu sur ça. Donc c'est important aujourd'hui de... Voilà, même le beau jeu aujourd'hui, même pour les supporters. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui supportent le Milan. Par exemple, tu te rappelles le Milan Gattuso? Il avait beau avoir des résultats.
Ah, ça, parfois, oui, on s'en souvient, oui.
Voilà, c'était aussi parfois en contraste. C'est-à-dire que, toi, j'en parlais avec mes amis, ils me disent, oui, Milan a gagné, mais on n'a pas pris de plaisir. Et ça arrive, je parle de Milan parce que j'ai des amis qui supportent le Milan, mais on peut prendre pareil avec d'autres clubs. Parfois, quand le résultat n'est pas lié aussi au jeu et au plaisir que tu prends, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Parfois, on se dit, ouais, alors, pas que. Mieux vaut avoir un beau jeu et de perdre le match, mais c'est vrai qu'aujourd'hui si on peut avoir les deux, disons c'est quand même mieux que d'avoir une petite victoire 1-0, attraper ric-rac. Donc voilà, c'est peut-être pas ce que recherchent aujourd'hui aussi les tifosi.
Oui, et puis l'évolution de la pensée, c'est aussi d'accepter aujourd'hui que bien jouer n'est pas synonyme de défaite.
Et déséquilibre.
Et de déséquilibre et de mise en danger particulière de son équipe. Et c'est là-dessus que je trouve qu'Allegri est resté vraiment bloqué dans des années lointaines. C'est que à chaque fois qu'il y a eu les disputes entre guillemets à la télé avec Adani, l'argument d'Allegri c'était d'opposer le beau jeu et la victoire. Sauf que tu peux tout à fait gagner en jouant bien. Et ça, cette réflexion-là, elle est en train d'ouvrir de nouvelles possibilités en Serie A pour les jeunes entraîneurs. Parce qu'on voit très bien qu'on est capable de gagner quand on joue bien, quand on a un football de proposition, quand on est proactif, quand on cherche à aller de l'avant, quand voilà. Et pas simplement quand on reste derrière et que le but est de sécuriser au maximum son équipe et compter sur un faux pas d'un adversaire. Ça, c'est la vision un peu étriquée, je trouve, d'Allegri. Et qui peut être aussi, je pense, très sincèrement, une limite dans l'évolution de sa carrière. Parce que s'il reste sur les mêmes méthodes... Il se rapproche beaucoup plus d'un Mourinho, par exemple, dans la philosophie, dans l'idée de jeu, que d'un Pochettino, que d'un Jurgen Klopp, etc. On voit aujourd'hui que pour un mec comme Mourinho, c'est très difficile d'être entraîneur de football parce que son unique modèle ne marche plus aujourd'hui. Et Allegri, il faudra faire attention, notamment quand il va choisir son prochain club, à ce qu'il évolue lui aussi. Alors peut-être que cette année à l'écart d'un banc... lui a permis de voir autre chose, et je l'espère, mais il faudra suivre aussi son évolution parce que lui me semble vraiment très bloqué dans un football d'avant.
Une dernière chose, tu vois, avec les entraîneurs que tu as décrit, avec cette pensée de toujours aller vers l'avant et d'attaquer, on pourrait prendre aussi deux exemples tout simples. Gianpaolo qui était à Milan et Sarri qui était à la Juve, parfois il y a aussi une limite, de ses dogmes. Tu vois, moi, j'ai l'impression que Sarri, à la Juve, va vraiment contraster entre ses dogmes à lui et ce qu'il aimerait insuffler à ses joueurs, et parfois aussi se heurter à un gros vestiaire qui est habitué autrement et qui n'a pas forcément envie de changer les choses. Et à Milan, par exemple, le problème pour Gianpaolo, c'est qu'avec ses dogmes, il a eu du mal à revenir dessus et il a fait passer les interprètes avant ça. C'est-à-dire que le premier match, par exemple, à Udine, t'as Borini qui joue au milieu, t'as Suso qui est en 10, mais alors sans trop être en 10, Casillero qui était à l'union d'attaque. Enfin, tu vois, il y avait vraiment un mélange de tout, uniquement pour rester avec son 4-3-1-2 qu'il avait dans sa tête, qu'il a toujours employé, que ce soit à la Sampdoria ou ailleurs. Et voilà, certains diront, parfois, ça peut être une limite aussi des entraîneurs qui prônent le beau jeu et qui, parfois, se heurtent aussi à d'autres réalités.
Alors, je vais parler d'un facteur qui est hyper important, mais qui est une denrée rare aujourd'hui en football, c'est le temps. Et en fait, effectivement, Gianpaolo a pas eu le temps, je pense, c'est une des données, pour vraiment mettre en place ce qu'il souhaitait au départ, et ce qu'on connaît tous de lui. Le truc, c'est que, en fait, Milan, moi je trouve, avait des ambitions de grand club avec un effectif de... pas de milieu de tableau, mais entre 7e et 9e place, quoi, concrètement. Avant le mercato d'hiver et l'arrivée d'un mec comme Ibrahimovic qui a un peu secoué tout le monde. Et en fait, quand tu interroges les techniciens, et c'est marrant parce que un petit spoiler, ce week-end, vous allez retrouver dans l'équipe mag un de mes reportages que j'ai fait aux Pays-Bas avec des personnes qui sont passées à l'Ajax, des formateurs, etc. Et j'ai eu cette discussion avec eux parce que ça m'intéressait vraiment. D'avoir leur point de vue, bon, je m'en doutais un petit peu parce que j'avais étudié quand même. C'est des personnes que j'avais déjà interviewées pour d'autres choses, mais et je leur ai dit la question toute simple. J'ai repensé à ces discussions, à Dani, à Allegri, à opposer le résultat au jeu, enfin le beau jeu et la gagne, tout ce genre de choses. Et en fait, leur réponse a été simple. En fait, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit tout est une question de temps. En fait, évidemment que ça va prendre beaucoup plus de temps de mettre en place certaines choses, un modèle particulier, une façon d'évoluer, une façon de s'entraîner, une façon de se comporter, une façon de penser différemment aussi. Et je fais le parallèle avec Sarri, il passe derrière 6 années d'Allegri. De mémoire, ça va être 6, 5 ou 6, ou c'est oui. Évidemment très, ou 7 même, non 6 je crois. Donc c'est évidemment très compliqué de passer derrière Allegri qui est pendant 6 ans à façonner un vestiaire à ce qu'il voulait mettre en place. Et évidemment que lui il arrive derrière et c'est compliqué de vouloir tout changer d'un seul coup. Et eux m'expliquaient que en fait c'est impossible de tout changer d'un seul coup et que généralement ce type de projet, pour vraiment voir le voir fonctionner à plein régime, il faut 3 ans. Pour vraiment mettre en place des choses très importantes, il faut compter 3 ans. Sauf que dans un club comme Milan, ou dans d'autres, hein, en Italie, c'est pas possible. Et tu vois, par exemple, à Sassuolo, ils ont pris le temps. Ils ont pas mis trop de pression. Ils ont fait une erreur au départ. Je sais pas si tu te souviens. Ils avaient viré Di Francesco au départ. Parce qu'il avait pas les résultats. Et que la méthode qui réclamait du temps, ne portait pas ses fruits. Ils l'ont vite rappelé derrière, ils l'ont laissé installer ses idées, etc. Derrière, quand Di Francesco est parti à la Roma, ils ont pris un entraîneur qui était dans le même état d'esprit, peut-être encore plus dogmatique. Extrême, entre guillemets, dogmatique. Mais dans cette volonté de construction d'un club. Alors, c'est évidemment plus facile de le faire dans un petit club, ça je le conçois évidemment, mais pour autant, je suis pas persuadé que Milan sera gagnant au bout de 2 ans avec le changement qui a été décidé de revenir à quelque chose de plus rustre et basique.
Pour reparler de Sarri, imagine-toi, la Juve ne gagne pas le titre ou ne va pas en Ligue des Champions et ne gagne pas la Coupe d'Italie. Tu vois, je suis pas certain que Sarri resterait la saison prochaine et ça va dans le sens de ce que tu dis. Ou à un certain niveau d'exigence dans des grands clubs, c'est vrai que parfois on n'a pas la patience. Et comme tu l'as dit, après tant d'années avec Allegri, c'est vrai qu'avec un peu de recul et la tête froide, maintenant qu'on est un peu en pause entre guillemets, on peut se dire que Sarri en quelques mois, pouvait difficilement aussi changer aussi radicalement les choses et imposer tout ce que lui voulait. Mais la vérité, c'est que s'il ne gagne rien cette année avec la Juve, moi je ne sais pas ce que tu en penses, mais
ça sera considéré comme un échec.
Voilà, et je ne suis pas certain qu'à la fin de la saison, bah, il reste. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce contraste entre laisser le temps aux entraîneurs qui proposent ce genre de choses, mais l'exigence aussi de ramener des résultats et d'éthique quand tu es dans un grand club.
Après, il faut voir aussi autre chose. Je pense qu'une autre donnée, c'est qu'il est extrêmement rare dans l'un des quatre grands championnats européens d'avoir une série de 8 années consécutives où tu remportes un titre. Et effectivement, celui qui arrêtera cette série sera présenté comme un échec, quoi qu'il se passe. Et donc peut-être que la Juve aurait pu décider de marquer une rupture pour relancer son effectif, repartir sur un nouveau projet à court, moyen et long terme, de poser des nouvelles bases solides avec un entraîneur plus marqué en termes de jeu que ne l'était Allegri. Le seul problème, c'est que la Juve ne pouvait pas le faire cette saison parce qu'elle n'avait pas construit l'effectif pour. Et en fait, quand tu décides de partir sur ce type de projet, il faut aussi construire un effectif pour. Et le problème, c'est que tu le fais pas quand tu as Cristiano Ronaldo dans ton vestiaire. Voilà, pour être assez basique, c'est un élément important. Tu peux pas le faire avec des joueurs comme Higuain, comme Cristiano Ronaldo sur le terrain. C'est impossible de mettre des nouvelles choses en place et de marquer une telle rupture et de se dire, eh ben si cette année on gagne pas, eh ben tant pis, on reste sur 8 titres consécutifs, c'est quasiment du jamais vu dans les 4 grands championnats européens. Eh ben si cette année-là on finit même 3e, eh ben tant pis, on aura mis des choses en place et des choses très solides pour les prochaines années. Là, le risque, à la limite, c'est de te dire, eh ben on va gagner une 9e fois. Mais plus tu vas gagner, plus ça sera difficile de changer. Plus ça sera difficile d'amener autre chose, de passer à un autre projet. Et en fait, ce que tu risques vraiment, c'est que tu vas avoir un retour en arrière plus important parce que tu vas arriver à l'essoufflement total de ton projet, à la rupture totale, qui sera forcément plus marquée que quelque chose de qui aurait été prévu de plus longue date. Voilà, en gros, mon idée du fonctionnement. En fait, on est parti un peu dans tous les sens, Guillaume, par rapport à notre, mais c'est un débat qui est...
Oui, mais c'est un débat tellement qui est d'actualité, parce qu'en soi, alors, à part faire les débats, mais quand tu vois que Allegri est parti aussi parce que lui, on le sait, a demandé une révolution sur le mercato à ses dirigeants, ou du moins à faire aller 4-5 achats ciblés pour relancer le projet, comme tu disais, et les dirigeants de la Juve, eux, étaient persuadés que cet effectif-là, pouvait donner plus avec une autre manière de penser, et c'est-à-dire avec un autre jeu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même des limites à certains postes et une mauvaise gestion. Et on peut revenir aussi à ce que voulait Allegri en se disant, bah, peut-être qu'il n'avait pas totalement tort en voulant lancer le projet d'une autre manière. Et comme je dis souvent,
mais lui,
podcast,
je pense, Guillaume, honnêtement, que ça aurait été une révolution en termes d'effectifs, mais pas de projet.
Pas de jeu, oui, évidemment. Évidemment. Et comme tu dis, si tu prends Sarri, après, Nedved et Agnelli et Paratici, même si Agnelli me paraissait moins convaincu de prendre Sarri et de changer Allegri, mais en tout cas, Nedved et Paratici étaient persuadés qu'avec cet effectif-là, qui avait quasiment tout donné quand même depuis longtemps, d'une autre manière, avec un autre entraîneur, une autre manière de penser, ils pouvaient encore donner des choses. On va voir où ça va aller cette saison si elle se termine. Mais c'est vrai qu'on comprend aussi ce que voulait dire Allegri dans le sens où cet effectif est aussi un peu essoufflé. Il a tellement tout gagné aussi que c'est difficile de relancer la machine à chaque fois. Donc voilà, il y a aussi cet écart entre Allegri et Sarri. Mais voilà, c'est un débat qui est d'actualité. C'est vrai qu'on a un peu dérivé, mais ça méritait qu'on en parle.
On passe à notre dernier item, Guillaume. C'est les premières semaines de Franck Ribéry à la Fiorentina. Alors, ça n'a certes pas duré très longtemps au final. On va évacuer tout de suite. On va dire que ça a duré jusqu'à mi-octobre. Ensuite, il y a eu le carton rouge contre la Lazio après le coup de sifflet final où il avait été très menaçant avec un arbitre assistant. Ensuite, retour de suspension qui a été assez longue. Je me rappelle plus la durée exacte, c'était 3 ou 4 matchs. Mais derrière, on a eu la grave blessure contre Lecce. Mais comme on est dans les choses positives, on va parler de ce qui s'est passé avant la mi-octobre pour le coup. Et effectivement, ces premières semaines de Franck Ribéry à la Fiorentina ont été particulièrement, je trouve, agréables à suivre. Alors ça avait commencé cet été par son arrivée, son opération séduction, les premiers mots en italien, la détermination affichée lors de chaque interview, chaque entretien. Tout le monde était ravi, des supporters, les observateurs. On était tous vraiment très positifs sur cette arrivée-là. Et puis ensuite, il y a eu le terrain. Mine de rien, c'est un joueur qui est arrivé sans préparation collective estivale, qui avait 36 ans, donc évidemment à un âge avancé. Et on a vu rapidement beaucoup de bonnes choses dans son profil technique et ce qu'il apportait à la Fiorentina, c'est-à-dire sa capacité à accélérer le jeu, à trouver ses coéquipiers dans la profondeur, à être juste techniquement, à être efficace dans les dribbles. On avait toute une série de statistiques fin septembre qui plaçait Ribéry parmi les premiers sur toutes les stades de course, de dribbles réussis, de passes en profondeur ou passes calibrées, d'avant-dernière passe, tout ce genre de données hyper importantes. T'es d'accord avec ça, Guillaume? Mais du coup, tu te dis quoi? On aimerait voir la suite. C'est un peu dommage ensuite qu'on n'ait pas pu voir un peu plus de Ribéry à la Fiorentina, parce que les premières semaines étaient quand même franchement impactantes.
Ah bah clairement, moi j'ai envie que l'histoire continue. Et cette blessure, mais ça ne doit pas entacher ce qu'il a apporté, j'ai envie de te dire, à la Serie A et aussi à Florence. Entre parenthèses, on va rappeler aussi l'ovation qu'il avait reçue à San Siro, tu t'en souviens, contre Milan, où tout le SAS fait pour applaudir, ouais, un joueur de ce calibre. C'est pas rien. Et ça faisait très longtemps, honnêtement, que j'avais pas vu ça à San Siro, donc c'est important de le rappeler. Mais moi, j'avais aussi la chance d'avoir, par exemple, le maire de la ville, d'avoir aussi une source au club qui m'avait dit que Ribéry avait vraiment transformé la Fiorentina et lui avait donné un niveau d'exigence beaucoup plus élevé que ce qu'elle avait avant. On rappelle que c'était un des vestiaires aussi les plus jeunes du championnat. Et en arrivant, forcément, Ribéry, par exemple, a convaincu Chiesa, entre guillemets, de rester. Il lui a pas dit reste, mais l'arrivée de Ribéry a, comment dire, crédibilisé le projet de Commisso, qui avait aussi cette volonté de starifier son projet. Et indirectement, Chiesa a été convaincu par l'arrivée de Ribéry. Et sur le terrain, on a tout de suite vu qu'il y avait une connexion entre les deux. Et si on va rechercher les coups de l'époque, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est loin, mais faut pas que la blessure, la suspension, vraiment enlève ce qui a été fait avant. Donc moi, j'espère vraiment que ça va continuer. Je pense que Ribéry peut encore apporter beaucoup de choses à la Fiorentina, du moins encore pour une saison. On peut aussi souligner qu'il a fait un joli don pour la lutte contre le coronavirus. Donc c'est aussi important. Il est adopté par toute une ville entière. Tous les tifosi l'adorent. C'est le maillot le plus vendu de la saison. C'est tout bête, mais le marketing, ça joue aussi. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai pas envie de te dire une belle surprise, mais disons que le mariage entre Florence et Ribéry sur le papier était charmant et on était impatient de le voir. Honnêtement, moi, il nous a pas déçus, à part ce carton rouge qui est un peu la tâche au tableau, mais dans son ensemble, le tableau reste très beau et j'espère vraiment que ça va continuer la saison prochaine.
Voilà qui boucle notre 12e épisode de la deuxième saison.
Sur une manière un peu poétique.
Du podcast Calcio et Pépé. Exactement, Guillaume. Quelques petits rappels importants. On est à 98 notes sur Apple Podcast. Ce serait top si on pouvait arriver au 100 après la diffusion de cet épisode. N'oubliez pas de noter donc notre épisode sur Apple Podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Stitcher, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, un peu partout, sur Twitter et Facebook aussi pour les réseaux sociaux, sur Instagram évidemment. On rappelle qu'on est aussi sur Patreon pour du contenu supplémentaire, des hors-séries, puisque pour le moment les débriefs de matchs sont évidemment entre parenthèses, mais on part sur des hors-séries un peu plus nombreux. On a fait très récemment, il y a quelques jours, le 11 historique de l'AC Milan. Et c'est vrai que ça nous a rappelé quand même pas mal de bons souvenirs.
Oui.
Et ça se passe donc sur patreon.com/ Calcio et
Pépé. On peut dire qu'on est là pour vous accompagner pendant ce long confinement qui s'annonce et que voilà, de notre échelle du moins, on va faire en sorte de produire le maximum de contenu.
Exactement.
Pour vous accompagner. On sait que les journées vont pas être simples. Elles le sont pas pour nous, elles le sont pas pour vous. Mais voilà, c'est important aussi de parler football. Voilà, on tenait à faire ce podcast positif pour aussi rappeler des belles choses, un peu comme tu l'as dit, le podcast Milan qui nous a basculé 20 ans en arrière. Mais ça fait du bien quand même de reparler de belles choses. Donc voilà, on n'est pas en dehors de l'actualité. On en parlera aussi en fonction de ce qui va venir les prochaines semaines. Hein. Je pense qu'on aura bientôt des nouveautés sur la fin de la saison de la Serie A, sur comment procéder sur c'est la question des salaires qui est beaucoup parlé en Italie. Voilà, il y a beaucoup de choses aussi au niveau de l'actualité, mais c'est important de s'échapper un peu. Et voilà, durant tout le temps du confinement, parlez-en à vos proches. Voilà, nous on essaie d'être là pour vous, pour vous parler du football. Et si vous avez des idées ou autres, voilà, n'hésitez pas. Mais nous voilà, de notre modeste
c'est notre contribution.
Nous, voilà, exactement. On essaie de faire le maximum pour vous.
Et donc, un volume 2 est en préparation et sera disponible, comme on dit, sur les sites de e-commerce sous 15 jours. Voilà, Guillaume, on remercie donc nos auditeurs et auditrices une nouvelle fois et on se dit donc à très vite, d'ici 15 jours, pour le volume 2 des choses positives que nous avons admirées depuis le début de la saison en Serie A. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.